Il suffit de se représenter une vaste étendue alluviale, paisible, presque silencieuse, un paysage juste traversé par les méandres d'une rivière, avec à peine quelques toits épars.
Ouais, un coin vraiment tranquille en fait.
C'est ça. Et puis, une seule innovation technologique fait son apparition. Et là, soudain, toute la géographie humaine est redessinée.
Une véritable cité industrielle qui jaillit de terre d'un seul coup.
Voilà, elle se structure, elle bouillonne de vie, pour ensuite se métamorphoser radicalement face aux nouvelles réalités économiques.
C'est une dynamique urbaine et sociale qui est absolument saisissante. Et ce qui est fou, c'est que la mémoire de ces bouleversements, elle réside pas toujours dans les grands traités d'histoire.
Non, c'est clair.
Bien souvent, la trace la plus vivante d'une ville se trouve capturée à l'échelle de la rue, dans des petits documents du quotidien.
Et c'est précisément l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui. Notre mission, c'est de prendre un corpus documentaire ultra précis et d'en extraire les connaissances pour comprendre comment le progrès technique peut forger puis défaire l'identité d'un territoire.
Tout un programme.
Ah ça oui, on analyse aujourd'hui l'histoire singulière de la ville de Capdenac-Gare, et ça à travers le prisme d'une discipline assez particulière, la cartophilie, donc la collection de cartes postales.
Et pour mener à bien cette analyse, on s'appuie sur une source d'une richesse vraiment remarquable. Il s'agit d'un grand format, un article extrêmement fouillé qui a été publié dans le bulletin numéro 48 du Cartoclub Aveyronnais.
Un numéro paru en janvier 2011, il me semble.
Exactement. Et ce document offre une granularité exceptionnelle sur l'évolution urbaine, parce que la carte postale, ça fige un instantané de l'architecture et de la sociologie d'une époque.
Ce qui soulève tout de suite une question de méthode. Comment on structure une telle masse d'images sans s'y perdre?
C'est là qu'il faut absolument saluer le travail d'orfèvre de l'auteur de cet article.
Claude Fraisse.
Oui, Claude Fraisse. Il a rassemblé et décrypté ces témoignages visuels avec une rigueur historique indéniable.
Et on doit aussi mentionner que la mise en valeur de ce travail n'aurait pas été possible sans Guy Mazard.
Ah oui, le rédacteur en chef.
C'est ça. Et le concepteur de la maquette, la mise en page majestueuse qu'il a créée donne une vraie cohérence narrative à toutes ces archives. Bon, décortiquons tout ça. Replongeons-nous dans la topographie originelle. À quoi ressemblait cet espace avant que l'industrie ne vienne y imposer sa loi?
Le contraste est juste saisissant. Avant l'arrivée du chemin de fer, l'article décrit une plaine alluviale fondamentalement rurale, située à la confluence de la rivière Lot et de son affluent, la Diège.
Donc on est dans la première moitié du 19e siècle, avant 1858.
Voilà. Le nom même de Capdenac-Gare n'a aucune existence légale ou géographique. Il n'y a que quelques hameaux avec des noms évocateurs, comme Lasfargue ou Tinsou, et quelques fermes isolées.
Et sur le plan administratif, tout ça dépendait de la commune voisine, Saint-Julien-d'Empare.
Exactement. Et la documentation visuelle illustre très bien cette ruralité du départ. Claude Fraisse s'appuie notamment sur une carte postale intitulée Saint-Julien-d'Empare, Grande Rue Nationale.
Et quand on regarde les détails, l'absence d'infrastructures modernes saute vraiment aux yeux.
Ah c'est flagrant. On y voit des bâtiments en pierre massive, des habitants qui prennent la pose pour le photographe, mais le détail le plus parlant, ça reste la chaussée.
La route vers Villefranche n'est même pas goudronnée.
C'est ça, c'est un monde totalement agraire, soumis au rythme lent des chevaux et des saisons.
Du coup, quel a été l'élément déclencheur qui a pulvérisé ce statu quo?
Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact d'une date fondatrice, le 31 août 1858, l'ouverture de la ligne ferroviaire qui relie Montauban à Saint-Christophe-Vallon. Ça marque un vrai point de non-retour.
Il faut préciser que le but de cette ligne, c'était pas du tout pour les touristes ou pour aider les ruraux à se déplacer.
Pas du tout. C'était une artère vitale pour l'industrie lourde. La vocation première, c'était d'évacuer le charbon qui était massivement extrait du bassin minier voisin de Decazeville.
Pour l'acheminer vers Montauban et ensuite vers Bordeaux et la côte atlantique, ouais.
Capdenac-Gare naît donc d'un besoin logistique viscéral, fluidifier le transport des énergies fossiles.
Avec une vocation industrielle pareille, l'impact sur la population locale a dû être immédiat.
Fulgurant. L'article donne des chiffres très clairs là-dessus. En 1856, donc 2 ans avant la ligne, il y a 1738 habitants dans le secteur.
Et ensuite ?
30 ans plus tard, en 1886, ce chiffre frôle le doublement. On passe à 3398 habitants.
C'est énorme.
Et l'analyse montre que la population de la partie rurale de la commune, elle, n'a pas bougé. Toute la croissance a été générée par ce nouveau pôle urbain autour de la gare.
ce qui pose inévitablement la question du logement. Une infrastructure de cette taille, ça demande une main-d'œuvre abondante qu'il faut bien loger sur place.
Absolument. La compagnie du Midi, qui gérait le réseau, se retrouve obligée de pallier le manque d'infrastructures civiles. Ils lancent la construction de vastes ensembles d'habitations pour les cheminots.
Des bâtiments qu'on appelait les casernes, d'ailleurs.
Oui, le terme est très révélateur. Ça traduit l'organisation hyper hiérarchisée et le paternalisme très strict des grandes compagnies ferroviaires de l'époque.
On devine que l'arrivée d'une telle machine industrielle au milieu d'une commune rurale, ça a dû créer des étincelles.
Forcément. Les paysans voulaient qu'on entretienne les chemins de terre et les cheminots voulaient des routes modernes.
Des priorités diamétralement opposées.
Et la rupture était inévitable. Après de longues démarches, le 16 mai 1891, Cap-de-Nac-Gard obtient son indépendance et devient une commune à part entière.
Séparée de Saint-Julien.
C'est l'aboutissement institutionnel d'une mutation territoriale complète.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, car cette nouvelle identité, forgée par le rail, elle se matérialise de façon monumentale dans le paysage.
Et c'est la force des cartes postales de l'article. Elles nous permettent de visualiser cette ingénierie titanesque. Le chemin de fer, c'était l'apogée de la tech de l'époque.
L'architecture devait refléter cette puissance. Le franchissement des obstacles naturels en est le meilleur exemple. Pour traverser le Lot, ils ont fait ériger un majestueux pont de fer.
Conçu par les fameux ateliers de Gustave Eiffel, s'il vous plaît.
Rien que ça. Il y a une carte postale très évocatrice là-dessus, le pont de fer avec train en marche.
Le cliché spectaculaire. On voit la structure en treillis métallique sur d'énormes piles en maçonnerie, avec un lourd convoi de charbon figé en pleine traversée.
Panache de fumée au vent, la quintessence de la révolution industrielle. Mais l'ambition s'arrête pas au pont.
Non. Au cœur de la ville, les infrastructures pour les passagers sont pensées pour impressionner. L'article mentionne la carte numéro 698 qui montre l'intérieur de la gare.
Et on y découvre une immense verrière métallique au-dessus des quais.
Une vraie cathédrale de verre et d'acier. Sous cette lumière, on voit des voyageurs très élégants côtoyer le personnel en uniforme. Un vrai symbole de modernité.
Sauf que la gare des voyageurs, c'est que la face émergée de l'iceberg. Le vrai centre névralgique, c'était le dépôt. Et les dimensions donnent le vertige.
Pour montrer ça, l'auteur utilise intelligemment des vues d'ensemble. Il y a une vue aérienne de l'édition Lapier, en avion au-dessus de Cap-de-Nac-Gard, et une autre vue détaillée signée Desjean et Velsier.
Ça montre une emprise foncière colossale, dédiée juste à la maintenance des trains. Et la pièce maîtresse, c'est l'imposante rotonde.
Une structure semi-circulaire gigantesque. Sa fonction, c'était d'abriter et de réparer les locomotives à vapeur.
Elle pouvait en accueillir 35 en même temps, c'est ça, hein ?
Oui, 35 sous son toit. Et au centre, il y avait une énorme plaque tournante. La loco avançait dessus, la plaque pivotait et la lignée avec le bon atelier. Au total, le dépôt gérait jusqu'à 100 machines à vapeur.
100 machines. D'ailleurs, les cartes postales montrent un détail technique fascinant sur la gestion de ces mastodontes. Il y avait un système de voies disposées en triangle près de la rotonde.
Ah oui, très ingénieux. À l'époque, les locomotives à vapeur étaient conçues pour rouler vite seulement vers l'avant. Il fallait donc les retourner physiquement pour le retour.
Et on retourne pas un engin de 100 tonnes comme ça.
Exactement. Le système en triangle permettait au train de s'engager, de reculer sur une deuxième branche, puis d'avancer sur la troisième. Et hop, il était retourné, prêt à repartir.
Une solution géométrique super élégante. Et pour maîtriser tout ça, il fallait du personnel très qualifié. Conduire une loco avec sa chaudière sous pression, ça demandait une sacrée expertise.
C'est pour ça que l'article mentionne le surnom donné à ces mécaniciens. On les appelait les sénateurs.
Un décalage sémantique assez drôle pour des ouvriers.
Mais c'était pas ironique du tout. Ce titre venait directement de leur salaire. Il équivalait à celui des vrais sénateurs siégeant à Paris.
Sérieusement ?
Oui. Leur responsabilité était écrasante. La sécurité des passagers, la ponctualité des marchandises, la maîtrise d'engins explosifs, c'était la véritable aristocratie cheminote.
Et toute cette concentration de richesses et de passagers, ça a complètement transformé le commerce local. Une plateforme de correspondance, ça génère une audience captive énorme.
Les voyageurs devaient bien s'occuper et se nourrir en attendant leur train. Le long de l'avenue de la gare, plein de commerces et d'hôtels ont ouvert.
L'étude s'attarde d'ailleurs sur l'annexe meublée du buffet de Cap-des-Nac.
Un imposant bâtiment de 3 étages géré par la veuve de Lojas. Et sa spécialité, affichée en grand sur la façade, c'était les pâtés de foie gras.
Proposer du foie gras à des passagers en transit, c'est du haut de gamme. Et c'est justement dans l'enceinte de ces buffets que se cache une anecdote géniale de l'article.
Si l'on relie cela au contexte global de l'agroalimentaire français, c'est saisissant. Le gérant du buffet principal, M. Reynal, s'est associé à son gendre, M. Roquelor.
Reynal et Roquelor, le fameux duo.
Ils ont eu l'idée de mettre leurs plats en conserve pour les vendre au-delà des simples voyageurs. Et voilà comment est née cette célèbre marque au cœur de l'effervescence de Capdenac.
C'est poétique d'imaginer un empire de la conserve naître pour nourrir des passagers pressés. L'auteur illustre ça avec une carte publicitaire montrant un cuistot jovial au milieu de boîtes de conserve.
Avec le fameux slogan radio.
Ah oui, le slogan qui restait bien en tête, « Je me régale, c'est la faute à Reynal, j'en veux encore, c'est la faute à Roquelor ». Un vrai cas d'école de marketing issu du monde ferroviaire.
Au-delà de ses réussites, la cartopophilie montre aussi les petites transitions technologiques du quotidien. L'article analyse des scènes de rue comme celle du café glacier tenu par Marcel Korn.
Et le détail important, c'est pas le café, c'est ce qu'il y a sur le trottoir devant.
Une pompe à essence. C'était le point d'approvisionnement du docteur Fournier qui avait la toute première automobile de la ville.
Sur une seule image, on voit la fin du tout ferroviaire et le début du moteur à explosion individuelle. C'est fou.
La mutation de la ville se lit aussi dans son architecture religieuse. L'ancienne église était devenue trop petite. En 1910, ils en ont construit une nouvelle, immortalisée par une photo vertigineuse.
Le cliché de Eubart, où l'on voit des ouvriers en équilibre sur le clocher pour installer une statue de la Vierge de 1400 kilos.
Appelée Notre-Dame des voyageurs, l'identité ferroviaire s'infiltre vraiment partout.
Et ces bâtiments cachent parfois des mémoires plus lourdes. Claude Fraisse s'attarde sur le pensionnat Notre-Dame de Massip.
Sur la carte, on voit juste une cour intérieure, banale, mais l'article rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, cette institution a caché et sauvé de nombreux enfants juifs.
Une simple vue architecturale devient le témoin d'une résistance héroïque silencieuse. C'est très poignant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie par rapport à l'évolution de la ville ?
L'obsolescence est le prix de l'innovation. Le déclin de Capdenac en tant que hub ferroviaire suit une logique implacable. Au fil du XXe siècle, la vapeur cède la place à l'électrification et au diesel.
Sans parler de la concurrence de la voiture et des camions.
Voilà, les infrastructures géantes de Capdenac deviennent inadaptées. La rotonde aux 100 locaux a été purement et simplement démolie.
Un pan entier du patrimoine effacé.
Oui, les directions de ligne ferment et le temps prestigieux des sénateurs est révolu. Les bâtiments restants ont été repris par les travaux publics.
C'est un choc monumental. Quand une mono-industrie s'effondre, la ville entière risque de mourir. Mais Capdenac a rebondi.
Exactement. Aujourd'hui, la ville abrite beaucoup de retraités. Le rythme s'est apaisé, mais l'économie s'est diversifiée. L'agroalimentaire est resté, la machine-outil s'est développée, avec l'usine Forest.
Visible sur des cartes plus récentes d'ailleurs.
Et le secteur des travaux publics a pris le relais du rail pour maintenir l'emploi.
C'est une trajectoire urbaine fascinante. On est passé d'une plaine vide au cœur battant du rail français pour finalement trouver un rythme apaisé. Ce travail du Carto Club Aveyronnais prouve à quel point de simples petits rectangles de carton peuvent sauvegarder l'âme d'une ville.
Et cela soulève une question importante pour nous aujourd'hui. Quand on voit cette obsolescence industrielle, on peut se demander ce qu'il adviendra de nos propres infrastructures modernes.
C'est vrai, nos fermes de serveurs gigantesques ou nos immenses hubs logistiques.
Lesquelles deviendront les rotondes obsolètes de demain, démolies et oubliées, ne laissant que quelques cartes postales numériques pour les historiens du futur.